Bienvenue dans l'Open Mic de Marceau et Audrey Pinchot sur les ondes de boulevard 102.1. Qu'est-ce qu'il y a, Audrey?
T'es pas dans la minute partout, hein?
De quoi?
Les écouteurs pis les fils partout sur la tête.
Je sais pas pourquoi.
T'sais, t'es capable d'y plugger au moins?
Il y a des gens qui ont leurs propres écouteurs, leurs propres mousses de micro, ils ont leurs propres petites affaires. Moi, normalement, quand j'arrive ici, là, tout est en place. Là, faut que je me rebranche.
Ouais.
T'as-tu des petites habitudes, toi? Avez-vous des
Absolument.
Petites habitudes de votre côté sur votre bureau de travail? Mettons, si quelqu'un prend votre place, commence à déplacer vos affaires, ça vous achale-tu?
100%. Ça m'est arrivé hier.
Ta brocheuse qui n'est pas à la même place. Tes crayons fluo qui ont été volés. Crayons qui ont été volés.
Quelque chose qui me tanne ici, mais c'est pas valide parce que c'est techniquement un espace commun. Sauf que je mets tout le temps à la même place, fait que c'est comme... Dans ma tête, c'est mon bureau et mon espace. Puis Max, cette semaine, a comme mis son ordi dans mon espace de travail.
Okay.
Puis quand je suis revenue du show, avec les bras pleins, j'étais comme insultée.
Ouais.
J'ai aucune raison valable
exact.
De l'être, mais
on le sait
j'étais
que
comme
c'est...
insultée.
On le sait que c'est normal. Ouais. On partage les environnements, mais on a l'impression que cet endroit-là, c'est comme un petit endroit
c'est
qui nous appartient.
Oui. Territorial.
Il y a quelqu'un qui a décidé d'empiéter sur notre espace.
C'est comme tannant, on dirait.
C'est tout le temps Max qui est responsable de tout ça.
Ouais, Max, il s'étend. Mais toi, t'as jamais vu l'appart à Max, hein, tu comprendrais.
Non, mais j'ai. On m'a décrit ta voiture, Audrey.
Ah!
Je pense que l'appart à Max
Cochonnerie,
et ta voiture,
c'est, pas vrai.
C'est à peu près la même
mais
affaire.
Je suis une nouvelle personne depuis 5 mois. J'ai un nouveau char, il faut le propre.
On m'a déjà dit que ça arrivait quand t'ouvrais ta porte, qu'il y a des choses qui tombaient.
Qui t'a dit ça, Véronique Bergeron? C'est Véronique, hein? Je vais m'occuper d'elle cet après-midi. c'est vrai que avec la route que je fais chaque jour, je vis dans mon char.
Ouais.
Fait que j'ai pas le choix d'avouer qu'il y a des moments où ça déborde parce que je me laisse plein d'options dans mon char. J'ai un maillot de bain, j'ai des bobettes, une brassière, j'ai un imperméable,
okay.
j'ai un coton ouaté, j'ai tout ce qu'il faut d'un coup que...
Mais t'es quoi, t'as peur de fin du monde ou...
Ben non, j'ai peur d'une tempête de neige, d'une grosse pluie, une soirée qui m'empêche de revenir à Deschambault.
OK.
Fait que comme ça, s'il arrive quelque chose, je peux dormir à quelque part, je peux me tirer une bûche.
C'est
là,
pas t'sais. Comme si tu passais ta vie à squatter à Québec chez des amis.
c'est bien, je fais beaucoup ça. J'ai comme une chambre chez Max, j'ai une chambre chez Véro, chez des collègues aux ventes. Oui, je me suis mis des pieds à terre.
Ouais, c'est ça.
Je me suis imposé des pieds à terre. T'sais.
Mais il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, je me rappelle pas qui m'avait dit ça, mais si l'intérieur de ta tête n'est pas en ordre... Ta voiture sera pas en ordre, tes tiroirs ne seront pas en ordre, ton garde-robe ne sera pas en ordre.
Moi, c'est le même chez nous, par exemple, pas dans mon char.
Mais normalement, si tout est en ordre, partout,
tout va bien dans ta tête.
C'est supposé de bien aller dans ta tête.
Moi, c'est comme l'inverse. Quand, mettons, il y a une saturation du cerveau, là, j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de place, là. Faut que je fasse du ménage chez nous. Puis quand j'ai fini tout décrotter à la maison, là, c'est comme si ça enlevait la moitié du poids sur mes épaules. Ça te fait pas ça, toi, zéro? Ça change rien,
non,
ton environnement?
Pas en tout.
Hey!
Moi, les espaces qui appartiennent aux membres de ma famille, là, mettons mes gars, leur chambre et tout ça, je m'attends à ce que ce soit au minimum rangé parce que quand ils sont pas là, ça me tente pas de rester 4-5 jours avec un gros bordel dans leur chambre. La plupart du temps, j'essaie de les aider aussi. C'est des gars, là, c'est un petit peu plus retardé que des filles. fait que j'essaie de les aider. Mais tu vois, la plus jeune à ma conjointe, elle fait son ménage toute seule. T'sais, son lit est tout le temps fait. Tout ça. Mes gars, c'est un petit peu plus long.
À quel âge es-tu
adolescente? Elle a 11 ans.
Ah, oh, mon Dieu, qu'elle est encore...
Puis mon plus vieux à moi, il a 10, puis l'autre a 8. Puis eux, ils partagent la même chambre.
Okay.
Mes gars sont dans la même chambre.
Fait qu'ils sont deux pour faire le ménage, pas si pire.
Oui, mais des fois, c'est pire.
Ah ouais, hein?
Oui, parce qu'il y en a un qui finit son lit, l'autre son lit est fini, fait qu'il passe, il arrache la couverture de
mais
l'autre.
Je pense que c'est normal.
C'est des gars.
On a tous été bordéliques, c'est ça un moment où on s'en foutait un peu parce
c'est
que ça nous appartenait pas. Un coup que tu deviens autonome puis que tu as tes propres affaires, on dirait que la game, elle change un peu.
Oui, quand les peu de fois où j'ai été célibataire, mon plan de vie, c'était de rencontrer quelqu'un, une fille, qui avait... ça te surprend pas, ça? Ce qui avait un trouble obsessif compulsif sur le ménage.
Pour avoir rien à faire.
Pour avoir absolument rien à faire.
Oui, mais je vais t'apprendre quelque chose. Une fille qui a ce toc-là, parce que j'ai ce toc-là, t'offre pas super longtemps qu'un gars bordélique.
Non.
Non, 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 c'est un enjeu.
Parce que je suis pas tant bordélique, mais j'ai toujours rencontré des conjoints qui étaient un peu comme moi. Fait que des fois, tu te dis, OK, c'est une maison, mais on pourrait peut-être faire un peu mieux. Mettons les coussins, les replacer, tout ça. Moi, j'ai rencontré un gars, OK, c'était mon ancien boss, en fait, dans la restauration. Donc, ça date de plus de 20 ans. Le gars, il avait un trouble obsessif compulsif. Puis je me posais les questions à savoir à quel point ça pouvait gâcher sa vie d'avoir ça. Parce que, exemple, au resto, il devait classer toutes les cannes de la même façon. Il fallait que ça soit droite. Il fallait les que étiquettes, les étiquettes en français soient d'avance. Tout est à droite. Quand tu allais dans le frigeur, puis c'était pas le chef cuisinier ou le chef exécutif, là. C'était le gérant du restaurant. Fait que autant en arrière dans la cuisine que dans sa salle de restauration, tout devait être droite. Il repassait sur les tables. Il fallait que les fourchettes, les couteaux, tout, fallait que tout soit droite. Il ne faisait que ça. Puis je me disais à quel point ça doit hanter ta vie. Des fois, il me parlait, là, je te le dis, Audrey, là, il me parlait, puis il me disait, on se disait des niaiseries, là, puis il passait comme 25 fois à la même place avec sa guenée.
Fallait vraiment que ça soit propre.
Non, c'était propre déjà. C'est juste que lui, il était tellement habitué de faire le ménage tout le temps, puis tout le temps classer des affaires. Mais à quel point ça doit être l'enfer pour quelqu'un qui vit?
T'as aucun trouble obsessionnel, zéro pin bar. Il n'y a pas des affaires, mettons, que tu fais à répétition. Je te donne un exemple super niaiseux.
Mais mettons que tu enlèves Pornhub dans ma vie. Non, j'ai pas de...
T'es bien pire. Je trouve que c'est même pas vrai. Macho au bout, tu sais. Non, mais moi, mettons que je me fais mal au genou droit, OK?
Ouais.
Je vais comme avoir un besoin de cogner un peu sur le gauche.
OK.
Faut comme que j'ai mal égal, mettons. Tu comprends ce que je veux dire?
Non.
Non!
Non.
Zéro!
Aucun auditeur qui nous écoute présentement, qui entend ce que tu viens de dire là, comprenne ce que
Arrête,
tu veux dire.
971, 102. Si je craque les doigts de ma main gauche, il faut que je fasse la main droite.
Ouais.
C'est comme...
Dans ta tête, tout est beau.
Ben oui, tout va vraiment bien dans ma tête à moi. Oui, mais c'est comme ça avec le ménage. Je pense que c'est un besoin de contrôler quelque chose, d'avoir comme un... C'est ça, un sentiment que tu contrôles une partie de ta vie, que tout est en ordre dans une partie de ta vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je... C'est ce que ma psy me transmet comme information.
Mais se cogner un genou, puis après ça, cogner sur l'autre, Audrey, j'ai jamais vu ça. Un gars... Non, je parlerai pas pour tous les gars, parce que là, on va me dire encore que masculinité toxique et tout ça. Mais la plupart des gars, quand ils se pètent un orteil sur le bord du lit, mettons, ben faut qu'ils frappent comme à quelque part pour comme compenser, là.
Oui, mais non, mais je comprends totalement.
Ouais.
Moi, je me ferais pas mal, là, on s'entend, mais je veux dire, c'est comme, il va falloir que je mette une pression sur le membre parallèle, là, ouais. Tu sais, pour comme...
Ina, qui nous écoute, c'est un beau nom, elle dit « Je suis pareil comme Audrey ».
Bon, tu vois.
Ouais. Il y a un autre auditeur qui dit « Moi, ma blonde, elle a vraiment un toc ménage, puis c'est vraiment le fun. Moi, j'étais un peu bordelique. Mais
vous
je
êtes
déteste
bon...
faire le ménage. »
Moi, c'est ça, mais vous êtes bon pour vous pogner, parce que moi, mon chum, à un certain moment, il a fallu prendre une décision. Puis c'est pas des jokes, là. On a engagé une aide ménagère. C'était vraiment un deal breaker. On s'ostinait tellement sur le ménage.
Ouais.
Tu sais, lui, il me disait « Audrey, on n'est pas dans une maison modèle. On vit dans cette maison-là. C'est normal qu'il y ait des affaires qui traînent de temps en temps puis que ça soit pas toujours super clean. Puis en plus, on a une foutue pantoufle qui perd du poil, là, comme c'est pas possible. »
Mais j'ai pas l'impression que nos parents puis nos grands-parents vivaient comme nous de ce côté-là. T'sais, nous autres, on est comme victimes de regarder tout ce qui se passe en décoration et tout ça. Tu sais, les magazines, là, magazines de décoration.
Mais tout est parfait.
Avec la mère de mes enfants, je me suis déjà ramassé avec un pot de fleurs, un hostifi de gros pot de fleurs en plastique, là.
Oh, ouais.
Au pied du lit.
Ah, parce que c'était beau comme décoration.
Oui, moi, c'était à la place où je me donnais un swing. Là.
C'est ça, c'est pas pratique partout.
C'était à la place où je me donnais un swing. Là. Fait que, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé avec le pot de fleurs de plastique?
Ah, j'en doute pas.
Une
là,
fois par six mois.
Des images, là,
il prenait le bord.
Oui. Ouais. Mais moi, tu vois, tu dis que nos parents étaient peut-être pas comme ça. Les miens, par exemple, moi, ma mère, définitivement, avait un problème. Ouais. Ma mère a passé la balayeuse tous les jours.
Elle était dans le décor ta vie, mettons.
Mon Dieu, 100%, c'était vraiment une maison modèle chez nous. C'était tout le temps super propre. Tu pouvais licher le plancher. Là. Ma grand-mère, elle-même aussi. Fait que, inévitablement, pour moi, mettons, il y a du monde qui vient à la maison. Pas question qu'ils mettent les pieds dans la maison si le ménage est pas fait ou si c'est pas rangé. Là, c'est un enjeu. Là.
Okay. L'arrière-grand-mère de mes gars lavait encore son plancher à quatre pattes à plus de 80 ans.
Mais j'en doute pas pantoute. Ma grand-mère
elle avait ça à guenille.
Ma grand-mère est vraiment comme ça. C'est propre.
Passait le balai, passait la balayeuse, puis après ça, let's go, laver le plancher à guenille. Ces gens-là étaient fins. Incroyable.
C'est capoté. Ben aujourd'hui, au moins, on a des outils, là, t'sais, la petite balayeuse robot, ces affaires-là, pour donner un coup de main. On a des vide-fous aussi, je pense.
Aujourd'hui,
là,
je m'en vais sur Spotted. Bonjour. Je recherche personnel pour faire le ménage une à deux fois par mois. chez nous, merci. Puis c'est là, payant, ben, ils viennent.
Si pépère.
Hein? Sûrement, moi, ça me coûte. La dernière fois, ils sont venus la semaine passée, ça m'a coûté 200$. Mais je suis arrivé à la maison, ça sentait comme quand tu arrives dans une chambre d'hôtel. Là.
Oui, oui.
C'était clean, tout était droit.
Ah, puis ils font les affaires que tu fais jamais, là, les plaintes de chauffage, genre, puis les moulures de bonne mûre, là, tu sais.
Les lumières.
Oui. C'est vrai, les switches, on oublie ça.
Les switches de lumière.
Les petites affaires là, qui aspirent l'air au plafond. Là.
Les pales.
Ouais,
ah, toi, tu parles d'échangeur d'air.
Oui, mais ça ressemble pas à ça. Chez nous, mettons, c'est pas gros de même. Là. Ouais, c'est une poussière, ça. Là, c'est dégueulasse.
Mais eux autres, ils font ça. C'est des machines. C'est ça. Mais nous autres, c'est une entreprise commerciale. C'est un couple qui est venu chez nous, puis ils font le ménage. Moi, je peux en faire qu'avec eux depuis un bon bout de temps. Là. Je les adore. Là. J'arrive chez nous, puis ça sent comme si... Comme si la maison était neuve.
Oui, non, c'est parfait. Nous autres, on avait une fois 2 semaines. Ça prend à peu près 2 heures et des poussières. Puis c'est que ça nous enlève le poids de ce qu'on a. Bien, je dis qu'on n'a pas le temps de faire. Tu peux prendre le temps. Mais nous autres, c'est une décision qu'on a prise pour le bien de notre couple, mettons, puis le temps qu'on avait le week-end. Mais si tu peux te permettre ça, moi, tu vois, je suis très à l'aise de me serrer la ceinture ailleurs pour être capable d'avoir cette aide ménagère-là s'il faut.
Il y a tellement de monde qui se chicane sur le ménage.
Ah, c'est épouvantable. Ouais. Tu sais que c'est une... En fait, c'est la cause la plus grande, mettons, des séparations. Tu sais, il y a tout le temps un top qui sort chaque année.
Je pensais
là,
que c'était
l'argent. Psychologiques, ben, c'est dans le top 2 probablement. Mais je sais que l'année passée, le ménage revenait numéro 1 parce que c'est niaiseux comme le lave-vaisselle. Ça fait tellement partie de ton quotidien à un certain point que tu peux te picosser pour n'importe quoi, là.
Mais mes enfants, c'est un combat.
Mais j'en doute pas.
Tu sais, de mettre, là, je vais utiliser un ancien mot, là, mais de mettre les assiettes à la pentrée, là, plutôt que de le mettre dans la vaisselle qui est à genre 30 cm. Là.
Moi, je peux être coupable pour ça, par exemple.
Je regarde mon plus vieux, Josh. Regarde la vaisselle. C'est cool, hein? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu pourrais peut-être mettre tes ustensiles puis ton assiette dans la vaisselle.
T'as même pas besoin de la laver, ça le fait à ta place.
Mais là, franchement. Franchement, Quest!
Ça s'en vient d'ado, tes gars.
Ben oui.
Ça s'en vient, là, tranquillement, pas vite. Tu sais qu'on a parlé de toi, mon chum, en fait, la semaine passée?
Ah, ça m'arrive souvent, oui.
J'imagine que ça te rend heureux, hein? Peut-être enflé. Non, mais on parlait justement de ça, la vie de couple, le quotidien, les enjeux. Puis il y a de quoi, j'ai l'impression, quand t'es... Puis c'est peut-être... Bon, ça, c'est là que moi, je suis rendue dans ma vie, mais quand t'es en couple dans le début vingtaine, puis tu traverses ta vingtaine avec quelqu'un, tu traverses comme bien des affaires.
Mm-hmm.
Parce que j'ai le sentiment que dans vingtaine, c'est là que tu crées un peu ta carrière, tu mets tes bases, tu t'en vas vers la création d'une famille. Mon Dieu, que tu changes dans vingtaine. Là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit, mettons, entre mon début vingtaine et ma fin actuellement. Puis on jasait de tout ça, la vie, puis le futur, puis où est-ce qu'on se voit. Puis on s'est mis à parler de fondation de famille, puis de séparation. Puis on partageait nos craintes. Tu sais, lui vient d'une famille où ses parents sont encore ensemble. Moi, je viens d'une famille où mes parents s'aiment encore comme le jour 1. Puis c'est plus nécessairement le quotidien des gens qui nous entourent de notre âge.
Fait qu'en fin de semaine, petit chum, il voulait se séparer, mais ses parents n'auraient pas voulu, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. Non, mais on parlait de futur, puis je disais, moi, il y a un moment dans ma vie où, quand j'entrevoyais le fait d'avoir une famille, je me disais, il faut que je sois sûre que la personne avec qui je suis, c'est l'homme de ma vie.
Non.
Genre, tu comprends?
C'est l'erreur que tout le monde fait.
Mais 100%, puis c'est là que tu es entré dans la conversation, parce qu'on a déjà parlé de ça, toi puis moi, puis je disais à mon chum, tu sais, il y a de quoi que je trouve beau parce que je réalise depuis une couple d'années que, pour moi, tu es le père de mes futurs enfants.
Merci,
j'ai confiance.
Gentil, mais j'ai déjà mes propres enfants.
On va arriver à quelque chose, hein? Là, on va-tu... Non, mais j'admire la situation dans laquelle toi, t'es.
Ouais.
Je trouve ça hot que tu parles souvent de la mère de tes gars, puis vous avez une super belle relation sans rentrer dans ton intimité. Puis je trouve ça cool, je trouve ça beau, je trouve ça admirable, tu sais.
Ouais.
Puis j'ai arrêté d'avoir cette crainte-là de me dire je passerai peut-être pas ma vie avec le gars avec qui je suis en ce moment, mais je suis certaine, si je fonde une famille, j'ai confiance que ça va bien aller, que ça va être une relation harmonieuse, parce que moi, je suis comme dans la génération où tous les parents se séparaient en se tirant des assiettes.
Ouais.
Tu sais, que les jeunes autour de moi, c'était ça. Là,
on
c'était...
est encore là-dedans. Là. Tu sais, il y en a de moins en moins, malgré le fait que c'est encore une majorité, mais dans la plupart des cas, les séparations se font de façon houleuse. Là. Puis ça prend un certain temps avant qu'on réussisse à avoir une relation avec la mère ou le père de notre enfant qui redevienne comme à la limite de l'acceptable. Moi, je suis entouré de gens qui se sont chicanés avec leur l'ex-conjoint et conjointe, puis que les enfants sont tiraillés au travers de ça. Mais juste pour revenir à ta... Là, les gens vont dire, mais ça, c'est pas Marceau. Mais juste pour revenir à la base, quand tu veux avoir des enfants, faut plus que tu te poses la question à savoir. En 2024, là, faut plus que tu te poses la question à savoir est-ce que je vais passer ma vie avec cette fille-là ou est-ce que je vais passer ma vie avec ce gars-là. Faut que tu te poses la question, la personne que j'ai choisie pour être le père ou la mère de mes enfants, est-ce que c'est la meilleure personne possible à mes yeux? Mm. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs fondamentales?
La même vision.
Est-ce que d'abord et avant tout, lorsqu'on aura des enfants, ça va être eux qui vont passer en premier?
Mm.
Jusqu'à leurs 18 ans ou leurs 21 ans. Il y en a que même leurs enfants, ils ont 50 ans, puis c'est encore les enfants qui passent en premier.
Mais c'est dur, par exemple.
C'est tout le temps ce questionnement-là qu'il faut que tu fasses. Je sais que c'est dur.
Parce que tu ne souhaites pas faire une famille pour te séparer puis imposer ça à tes kids non plus. Là,
tu ne penses pas à ça. Tu sais, moi, la mère de mes enfants, on était en couple à ce moment-là. On était 16 ans en couple. Puis c'était le temps. Moi, j'achetais des chalets, je revendais le chalet. J'achetais des maisons, je revendais la maison. Là, on a acheté une maison. Puis elle dit, tu sais, Yann, ça serait le fun de commencer à faire nos papiers, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, nos papiers? Ben, tu sais, d'aller chez le notaire, puis gérer nos affaires, puis, tu sais, pendant le temps que ça va bien, de décider qu'est-ce qui pourrait arriver en cas de séparation avec le notaire, qu'est-ce qui appartient à qui, blablabla, les enfants. Devenant le con où on fait un voyage, nous deux, puis on meurt, ben, à qui vont aller nos enfants? Fait que le problème, je l'ai refilé à mon beau-frère à ce moment-là et à ma belle-sœur.
Mais... c'est une belle marque de confiance, quand même.
Oui, c'est ça. Mais j'avais tout décidé ça, mais elle avait dit... on va faire ça pendant que ça va bien.
Mais mes parents ont fait ça, sais-tu? Moi, quand j'ai rencontré mon chum, ils trouvaient ça weird en maudine parce que je disais tout le temps, moi, mes parents ont bâti leur relation sur leur séparation. Puis on a toujours été conscients de ça. T'sais, c'était, on en riait, on n'a jamais pris ça au sérieux, moi et mes frères, mettons.
Mm-hmm.
Mais mes parents ont vraiment toujours bâti. Oh, on fait un gros achat, un gros investissement, un gros... ben c'est écrit, c'est noté, puis on le sait que s'il arrive quelque chose, ça va fonctionner comme ça pour éviter la merde qui vient avec si on en vient là. T'sais, je trouve ça super intelligent.
Faut que tu règles ça quand ça va bien, même si tu te dis, mais non, on va être toute notre vie ensemble. Ouais. Puis elle avait raison. Elle avait souvent raison.
Mais regarde, ça vous mène dans une belle situation aujourd'hui.
J'ai du mal de l'admettre, mais elle avait raison sur tout.
Et ça ferait sûrement plaisir de t'entendre dire ça. Fait que tu nous as inspirés en fin de semaine. Prends-le, c'est rond.
Bon, OK. Bon, c'est... sur ce complimarde, vous
bienvenue
êtes...
dans l'Open Mic.
Sur les ondes de Boulevard 101. Comment ça s'appelle?
L'Open Mic.
Ça va s'appeler de même longtemps. Bob Bissonnette, mettre du tape sur ma palette sur les ondes de Boulevard. C'est 21 degrés sur Québec pour aujourd'hui. On parle encore de probabilité d'averse cet après-midi, même risque d'orage maximum de 26 avec l'humidex. C'est 33 ce soir, cette nuit, partiellement nuageux. Risque d'orage minimum de 14 degrés. Demain, vendredi, une belle journée ensoleillée. Le matin, peut-être en après-midi, un peu d'alternance de soleil et de nuages. Des probabilités d'averse à seulement 30 % Risque d'orage en après-midi, dégagé en soirée, minimum de 16 degrés. Pour ce qui est du week-end, les amis, le topo a changé. C'est souvent ça qui nous intéresse, la météo pendant le week-end. Samedi, pour l'instant, alternance de soleil et nuages, maximum de 28. Et dimanche, la pluie aurait disparu en journée. Donc, ce sera nuageux avec un maximum de 22 degrés.
À la circulation, il y a quelques problèmes sur la capitale. Direction est à la hauteur d'Henri IV au moment où on se parle. Robert Bourassa, direction sud, entre Charest et le boulevard Laurier, il y a quelques ralentissements encore. Ça commence à ralentir aussi sur la 20 ouest à la hauteur de Tognetta, mais il faut le dire vite. Là, évidemment, s'il y a quoi que ce soit de plus précis ou de plus important, c'est le 88-97-1021 texto.
Max, les Quickie News à l'instant.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
Vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021. Je sais qu'on planche pas sur l'actualité dans l'open mic, mais juste pour vous dire que François Legault a décidé d'aller voir le maire de Louisville. Vous vous souvenez?
Ils vont des...
citoyens de Louisville, demain, on y espère que la POC batte de baseball.
Quel personnage!
Puis on règle le problème des oiseaux méchants. Mais suite aux inondations, je regardais les assureurs. Entre 10 et 25 d'augmentation pour les gens qui ont été touchés par l'eau. Certains pourront même plus se réassurer pour les dommages causés par l'eau. Et où on va enlever, comme on va demander aux gens, si vous n'avez pas de clapet anti-retour, vous allez devoir vous doter d'un clapet anti-retour.
Déjà ça que ce monde-là sont en mer en ce moment, là, mettons que ça aurait pu attendre. Là.
Exact. Mais il y a des bonnes nouvelles, par exemple. On nous dit que les agriculteurs, cet été, ça va bien, on va se le dire. Pour nous, du moins, ça a été un bel été. Pour les agriculteurs, on parle d'un été florissant. Et nous, on va toujours aux sources avec le propriétaire de la ferme Simard et Maraîcher quand il s'agit d'agriculteurs ou d'agriculture. David Simard est avec nous. Salut, David.
Hey, salut.
Est-ce que c'est vrai que l'été a été bon pour vous?
Ah, tout à fait. C'est une saison incroyable au niveau de la météo, là. Donc, oui, c'est tout à fait vrai. À date, ça va bien. Ça a commencé fort avec un printemps dans les ravageurs exceptionnels. Puis ça se poursuit avec les fruits et légumes puis la saison estivale.
Tu sais, on a parlé des inondations rapidement, puis bon, des assureurs et compagnie, là, avant de t'ouvrir la porte au salut. Il y a quand même, faut dire que dans ta job, vous êtes pas mal à la merci de la température. Puis c'est un lien boiteux que je veux faire, là. Je pense que de ton bord, tout s'est bien passé. Mais quand on regarde, mettons, en Mauricie, du côté de Montréal, il y a des terres carrément qui ont été, des bouts de terre qui ont été emportés, des récoltes qui pourront pas se faire, ça a endommagé, bref, le futur de certains agriculteurs, les impacts dans les années suivantes quand il y a ce genre de catastrophe-là, comment ça fonctionne? Parce que de ce que je comprends, il y a de la pousse de champignons à travers tout ça, ça peut gâcher le futur niveau économie pour vous aussi, mine de rien, là?
Bien, c'est sûr et certain que c'est difficile de se relever de ces choses-là sur un an. Tu donnes l'exemple en ce moment, là, en Mauricie, effectivement, puis à Montréal, ils ont eu 150 mm d'eau. Nous, on a été chanceux ici à Québec, là, on y échappait un petit peu. Là, pour ma part, c'est 75 mm d'eau qu'on a eu la semaine dernière. Puis la terre en avait grandement besoin, là, et on n'a eu aucun dommage ici. Mais pour répondre à ta question, dépendamment des productions, ça peut prendre plusieurs années avant de se relever. L'an dernier, c'était à grandeur du Québec, les dommages par l'eau. Et dans les productions de fraises d'été cette année, ça n'a pas été exceptionnel. Les plantations avaient encore des dommages de 2023. Fait qu'on s'en est senti encore cette année là, dans les fraises d'été. Mais c'est sûr que en agriculture, si tu as un pépin, ça va à l'année d'après. Tu peux pas dire, je sais pas, moi, OK, on vide le frigidaire, on le remplit, puis on recommence. C'est des cycles qui sont longs. Puis c'est difficile là, de se remettre là, sur les rails.
La financière, pour ceux que ça a peut-être un peu moins bien été cet été, qui ont eu des dommages causés par l'eau en raison des restants de l'ouragan qui passaient par chez nous, la financière, c'est une compagnie d'assurance. Puis comment ça fonctionne pour ces gens-là? Ils doivent réclamer. Ils réclament comment? Comment ils évaluent leurs pertes à chaque fois?
La financière agricole du Québec, c'est une drôle de bébite, là. L'an passé, on a vu toute l'étendue des ratés là, puis, que ça a donné, là. C'est un organisme qui est très gros. C'est un organisme qui est provincial. C'est une branche du MAPAQ, si on veut, le ministère de l'Agriculture. C'est là pour un peu protéger les agriculteurs au niveau financier. Puis l'an passé, on s'est aperçu justement que les programmes d'assurance récolte n'étaient vraiment pas adaptés pour plusieurs productions. Ils ont des seuils, c'est comme une compagnie d'assurance, on paye une prime, puis ils ont des seuils, mais souvent les seuils sont presque inatteignables. Là, des fois, il faut que ça soit une perte à plus de 70% avant qu'il y ait un paiement. C'est comme si demain matin, Yannick, tu passes au feu, puis on juge que ta chambre n'a pas été touchée. Ça veut dire, bon, ben, on paye pas pour ta maison. Tu es capable de dormir. Ta chambre est correcte, mais le restant est perte totale. Organise-toi. On n'atteint pas le seuil, donc on payera pas.
OK.
Ça ressemble un petit peu à ça ce qu'on a vécu l'an dernier. Ça a amené un peu à se questionner est-ce que c'était adéquat. Puis, le gouvernement a annoncé plus tôt cet été qu'il allait avoir des réformes là-dedans, mais ça prend énormément de temps. Je peux pas parler pour des situations spécifiques à tout le monde, là, mais le mot d'ordre en général, c'est que la financière agricole s'est pas adaptée dans les 30 dernières années, puis il y a beaucoup de travail à faire pour arriver en 2024.
Puis bon, nous autres, on est un peu obligés, là, avec notre maison, de s'assurer, bien entendu. Est-ce que ça a poussé les agriculteurs en se disant, regarde, moi, pour ce qui est de l'argent que je verse aux assurances, à la financière, mettons, je vais garder ça, puis en bout de ligne, dans quelques années, si j'ai des pertes, je pigerai dans le fonds que j'ai mis de côté. Ça pousse-tu des agriculteurs à justement ne plus être assurés pour leur récolte ou c'est une obligation pour vous autres?
C'est pas une obligation. Parfois, ça va l'être quand, admettons, je donne un exemple. La financière agricole assure aussi nos prêts. Donc, ils viennent endosser nos prêts vis-à-vis des institutions financières. Donc, ils étudient notre dossier, puis ils se portent garant de nous autres. Parfois, ils vont nous obliger à adhérer à certains programmes d'assurance dépendamment des productions pour se couvrir. mais c'est pas le cas dans toutes les productions. Il y a énormément de producteurs qui sont pas assurés. Je te dirais que dans le maraîcher, l'an passé, il me semble que la statistique, c'était qu'il y avait 60 ou 70% des producteurs maraîchers qui n'étaient pas assurés parce que les programmes n'étaient pas adéquats et que de toute façon, ça revient moins cher si tu regardes ça sur 10 ans de ne pas t'assurer que de le faire. Donc, c'est vraiment pas tout le monde qui est assuré.
David, c'est une drôle de question que je vais te poser, là, puis c'est rempli au final de préjugés puis d'effets limites si c'est pas le cas, mais quand on regarde ça, ça a l'air tellement compliqué. On dirait que les agriculteurs font pas une scène, c'est de la job en tabarouette, vous travaillez fort, il y a rien de stable non plus, parce qu'on en a parlé un peu tantôt, mais vous êtes à la merci de la température. Qu'est-ce qu'il y a d'attirant à rester fermier, je vais le dire comme ça, là?
La passion, tu sais, c'est des, on, la plupart des gens, on est des passionnés. Je pense que tout le monde qui fait ce métier-là a à cœur aussi de nourrir la population. C'est un métier qu'on, on veut pas, c'est important. C'est drôle, mais pendant la pandémie, tu sais, à 2021, on mettait beaucoup l'accent sur l'achat local. Mm-hmm. On s'est rendu compte, en début de pandémie, en avril 2020, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des tablettes vides à l'épicerie, là, puis je pense que ça avait fait peur à bien du monde. On s'était retourné vers l'agriculture. Il y a énormément de gens qui avaient perdu leur emploi là, dans le domaine, dans différents domaines. Ben, je pense même Yannick t'avait passé un peu dans cette gang-là, puis ça fait mal. Puis il y a beaucoup de ces gens-là qui sont retournés vers l'agriculture en disant j'ai le goût de faire quelque chose qui est super positif et constructif pour la société. T'sais. Fait que, je te dirais que nous, ce sentiment-là, ben, on l'a tout le temps. Tu sais, la province l'a eu en 2020-2021, nous, on l'a tout le temps. Ça nous pousse à continuer. Puis l'autre chose aussi, c'est que, tu sais, en ce moment, on est dans un creux de vague. C'est un moment, des années plus difficiles pour l'agriculture, mais c'est pas toujours comme ça. Puis, tu sais, dans les médias, on le voit, c'est un creux de vague un peu dans plusieurs médias, mais évidemment, ça va revenir. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est optimiste. J'aime ça regarder le bon côté de la médaille.
Avec le bel été qu'on a eu là, à la ferme Smart, qu'est-ce qui a été le fait marquant de ta production? Y a-tu des produits qui ont poussé que tu t'es dit « Tabarouette, je pensais jamais en avoir autant. »
Ben là, je vais te faire un peu la même réponse que j'ai faite à Red. Il m'a posé exactement la même question. Les cocombes, les zucchinis, là, c'est incroyable. C'est un peu con, là. C'est vraiment, ils sont de taille énorme. Il y a un rendement exceptionnel. Mais non, sérieusement.
Donc, pour des cocombes énormes, c'est à la ferme Simard.
Sachez-le.
Exactement. Pour tous et chacun.
Ouais. Puis est-ce que ça va avoir... y a-t-il une incidence sur les prix quand c'est un bel été comme ça? Est-ce que les produits au marché vont être peut-être un peu moins chers? Parce qu'il y en a plusieurs, on veut les passer.
On aurait tendance à penser que oui, c'est au niveau de l'offre et de la demande. Je te dirais que ça va pas souvent s'impacter sur le consommateur en tant que tel parce que les prix sont tellement décidés d'avance par les chaînes que souvent, tu verras pas vraiment. Mais on l'a eu dans les dernières semaines avec le maïs sucré. C'était un été exceptionnel. Le maïs a mûri un petit peu tout en même temps. Puis dans le marché de gros, là, il y a des producteurs qui se sont fait offrir 9 $ la poche de 5 douzaines pour du maïs. Donc, c'est très, très bas. C'est bien en dessous du coût de production. Donc, nous, on le voit quand ça arrive, mais le consommateur va pas nécessairement le voir au bout de la ligne parce qu'au final, c'est l'intermédiaire qui va empocher, là, tu sais.
Pourquoi on a l'impression que les produits locaux sont toujours plus chers, mettons, à l'épicerie? C'est-tu un mythe ou...
C'est un mythe. Ils sont pas nécessairement plus chers. Je te dirais que si on part, on pourrait en jaser pendant 1, 2, 3 shows, là. L'alimentation, c'est un drôle de secteur. Des fois, on fait des raccourcis, là. On pense qu'un pulsion, ça fait l'eau, mais c'est pas tout à fait ça en alimentation. Il y a beaucoup d'intermédiaires.
Ouais.
Les grandes chaînes sont 5 compagnies à nourrir 40 millions de personnes au Canada. Donc,
David,
la concurrence n'est pas tellement là.
Puis David, est-ce que je me trompe ou vous êtes pas mal plus réglementé ici au Québec qu'un producteur aux États-Unis ou encore en Amérique du Sud?
Bien, ça, c'est évident. T'sais, c'est sûr et certain qu'au Québec, on n'est pas capable d'arriver nécessairement avec les mêmes prix. que d'autres endroits dans le monde. Là. C'est pas un secteur. On est une région nordique. La saison est beaucoup plus courte. On s'est donné des règles et un cadre de société qui fait en sorte que, bon, les gens ne gagnent pas 4 piastres de l'heure. Puis on a des normes environnementales, on a des normes de bien-être animal, on a des normes de salubrité qui sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs. Ça fait en sorte qu'effectivement, ça fait qu'on n'est pas très concurrentiel sur le marché nord-américain. Mais c'est un problème beaucoup plus large que ça, là. En général.
Fait qu'on est mieux, on est mieux d'acheter directement, mettons, au kiosque de la ferme que d'acheter les produits locaux en épicerie.
Bien, c'est sûr et certain que si vous avez la chance d'acheter en circuit court, d'être direct, des fois, on va avoir l'impression que c'est un petit peu plus cher. Parfois, on ne remarque pas nécessairement la plus-value qu'on a sur le produit. Il n'y a personne ici qui a jamais perdu des légumes dans son tiroir dans le frigidaire là, parce qu'il était fini puis pourri trop rapidement. Quand on achète en circuit court, ça va réduire ça. On a des produits qui sont plus frais, donc évidemment, ils vont se garder un peu plus longtemps dans notre frigo. Ça va nous donner le temps de les consommer. Des fois, ça va être au niveau de la taille, au niveau du poids. Par exemple, un brocoli, moi, chez nous, ça se vend un petit peu en dessous de 3 $, là, mais évidemment, le brocoli, il est pas mal plus gros que celui-là. Je pleure également. Je pense que le consommateur a tout à gagner d'acheter direct. Puis plus qu'on va faire ça en tant que consommateur, bien évidemment, mieux nos fermes vont vivre, puis plus qu'on va avoir de volume, plus qu'on va faire de vente, nécessairement nos prix devraient garder, être plus stable et être plus raisonnable à la longue, c'est sûr et certain.
David, on parle d'un autre sujet. On a déjà jasé ensemble, toi et moi, des travailleurs étrangers qui sont chez toi pour aider à l'agriculture. Ces gens-là sont devenus pratiquement des membres de ta famille parce qu'ils reviennent constamment à chaque année après année. Puis il y a un article qui a été écrit par l'agence QMI qui parle des travailleurs étrangers temporaires. On dit que ces gens-là deviennent vulnérables avec le temps. Puis il y a une phrase là, qui parle de. C'est pratiquement de l'esclavagisme moderne. Quand tu entends ces affaires-là, je veux dire, ça n'a comme pas de bon sens. Est-ce que ces gens-là sont vraiment aux sources ou ils font juste donner leur opinion sans jamais aller voir des gars comme toi qui en accueillent année après année, puis que ces gens-là se sentent bien chez vous, puis ils se disent, hey, regarde, l'année prochaine, je veux revenir? Ça doit te faire halluciner de voir ça, c'est ce type d'esclavagisme moderne.
Le terme est aberrant, là. En fait, là, je pense que la personne qui a écrit ce mot-là, nécessairement, n'a pas pesé ce que ça voulait dire. Le terme esclavagisme, c'est très, très grave comme accusation. Quand on lit l'article, on comprend l'idée derrière ça, puis, je suis pas entièrement en désaccord avec ce qu'affirme. C'est pas nécessairement au niveau des employeurs-employés. Qui parle d'un rapport de force qui est inégal envers le travailleur. Puis moi, de la manière que je le vois, c'est beaucoup au niveau de la manière. Le programme des travailleurs étrangers temporaires au Canada, c'est quelque chose auquel on doit se soumettre. C'est des règles très strictes et sévères. Puis évidemment, c'est pas le travailleur qui est avantagé par ce programme-là. Donc, au niveau de la réglementation puis de la manière que le programme est fait, ce qu'on dénonce, c'est que le travailleur n'est pas libre nécessairement d'aller travailler pour d'autres employeurs au Canada. Il y a un contrat de travail avec l'employeur auquel il est attitré. Ça, évidemment, que ça peut désavantager le travailleur à long terme. Au niveau des normes de travail puis du bien-être en tant que personnel, en tant que personne. Mais le rapport employeur-employé, je trouve qu'il est très égal. Là. Ces travailleurs-là sont soumis aux mêmes normes du travail qu'on a ici au Québec. Ils sont soumis aux mêmes normes ils ont les mêmes droits. Puis nous autres, on les traite. Il y a peut-être une minorité de producteurs qui respectent moins leurs travailleurs, mais ils respectent.
C'est ça, j'allais te dire, David. Parce qu'il y a des histoires qui sont sorties dans les dernières années, puis c'est plate parce que ça teinte, puis ça tire vers ce genre de propos-là, mais il y a des histoires qui sont sorties dans les dernières années, puis je veux pas me tromper. Il me semble que c'était en Mauricie, une terre où les travailleurs étrangers étaient vraiment maltraités, là, dormaient dans des endroits qui faisaient pas de sens. C'était insalubre, là, ça faisait vraiment aucun sens. Puis je pense que malheureusement, c'est ça, les gens restent avec la la mauvaise image aussi. Là. Et pourtant, il y a des gens comme toi qui les traitent justement, comme Yann disait, comme des membres de ta famille. Là.
La majorité, je te dirais, les traitent parce que, tu sais, bien, parce qu'au final, ça reste des humains pareils. Puis les employeurs qui traitent mal leurs travailleurs, ils traitent mal les Québécois aussi. C'est juste du monde qui sont pas humains. Puis ça, ils sont c'est fait comme ça. On n'en voit pas beaucoup, heureusement. Mais moi, j'en ai connu des gens qui traitaient mal leurs employés, peu importe la nationalité. Puis c'est toujours plate de voir ça. Puis on tend à en voir moins ici au Québec à cause de la rareté de la main-d'œuvre. Mais ailleurs dans le monde, je veux dire, c'est... Moi, quand je lis des articles comme ça, je me dis que la personne n'est pas allée à la source, elle n'est pas allée voir sur les fermes de la manière que les équipes travaillent. C'est aberrant de voir un article comme ça. Là. On sent que c'est pas leur juste.
Ouais.
Ces gens-là sont indispensables pour notre société.
Exact. Pour le bénéfice des auditeurs, à quoi ça peut ressembler? Mettons qu'on y va de manière générale à la grandeur du Québec. Là, quand on fait venir un travailleur étranger, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Est-ce que l'hébergement est inclus? Est-ce que les trois repas par jour, les collations, tout ça, c'est inclus? Les transports, c'est inclus? Le salaire, ça peut ressembler à quoi en général à la grandeur du Québec?
Bien, toutes ces questions-là sont gérées par le programme en tant que tel, premièrement. Donc, si un travailleur vient du Mexique, ce ne sera pas les mêmes normes qu'un travailleur du Guatemala. Évidemment, il y a des bases. Tout ce qui est salarial, conditions salariales, c'est les normes du travail en vigueur au Québec. Donc, on peut penser à un salaire minimum, on peut penser à un 4% de vacances. On n'a pas la restriction de 40 heures par semaine. Par contre, on a l'obligation de donner 36 heures consécutives de congé à nos travailleurs. Eux, évidemment, quand ils viennent ici, ils veulent faire un maximum d'heures. Donc, 40 heures, c'est pas pensable.
C'est ça. Eux autres, ils veulent faire un 16 jours par semaine. Ben oui, c'est ça, c'est clair.
Ben, c'est ça qu'ils veulent. Quand on pense aux travailleurs étrangers qui viennent ici améliorer leur situation, on peut facilement penser à nous, les Québécois, quand on va faire du Nord. Tu sais, quand un gars monte dans le Nord, fait des runs de deux semaines, travailler dans une mine, évidemment qu'il veut faire un maximum d'heures pendant qu'il est là-bas, il veut améliorer sa condition salariale, il est logé, il est nourri, puis dépendamment des endroits où il y a d'autres avantages ou non. Mais c'est un peu ça que ces gens-là font.
C'est un beau comparatif.
Ils viennent ici, ils viennent faire un 6 mois, ils améliorent leurs conditions familiales là-bas, dans leur pays, au Guatemala. Quand ils viennent ici, nous, on a certaines obligations. Moi, je les loge, je les nourris pas, ils font leur épicerie. Mais par contre, je les transporte, je les loge, je paye l'avion, je leur fournis de l'équipement de travail. Ils ont leur salaire, évidemment.
Puis, est-ce que c'est des Guatémaltèques que toi ou des Mexicains?
Moi, c'est des Guatémaltèques.
Puis, ils font quoi quand ils travaillent pas? Ils prennent un petit verre, ils font la fête, ils jouent de la musique, ils chantent?
Non, ils sont quand même sérieux. Moi, j'ai des Omar qui travaillent ici depuis que je fais venir des travailleurs. C'est sa 5e saison. Omar, c'est un gars qui est très sociable. Puis là-bas, ils ont beaucoup l'esprit du village. Hein. Ils sont pas souvent chez eux, ils sont souvent dans la place publique. Puis ils socialisent beaucoup plus qu'on peut le faire ici. Donc, il se promène, il y a des chums à Saint-Anne, il va jouer de la musique chez un monsieur qui parle en espagnol. Là, puis, quand même, il y a des amis que je connais même pas. L'an passé, il est allé au festival d'été avec des amis. Il a sa petite vie sociale, il va faire son épicerie, il jase.
Parce qu'on les voit.
Évidemment, ils travaillent beaucoup. Là.
Ouais, on les voit à quel point ils sont sociables. Là. Ils vont, quand je vais faire un tour à l'île d'Orléans en moto, là, j'arrête toujours aux mêmes places là, où on met les voiliers, là, où les voiliers sont. Puis sont comme toute la gang, là, une vingtaine, une trentaine, puis ils jasent, puis ils écoutent de la musique, puis ils fument leurs cigarettes, puis ils s'amusent.
Mais tu sais, David, faut que je te lève mon chapeau parce que je pense que vous avez un rôle à jouer aussi, tu sais, dans le fait que ces gens-là s'adaptent bien, se font un cercle ici, année après année. T'sais, moi, je me souviens quand on est allé monter le Mont-Saint-Anne, là, puis Omar était là, tu sais, puis je trouve que vous faites une belle job aussi. T'sais, on parle souvent du négatif, malheureusement, mais vous faites une belle job pour que ces gens-là se sentent chez eux puis qu'ils aient envie de revenir, malgré le fait qu'ils ont envie d'enligner 60 heures, tu sais.
Bien, on essaie de ben nous autres, on est une entreprise quand même pas si grosse. On est capable de garder ça à échelle humaine. Si les entreprises qui sont plus grosses un peu, ben ils ont d'autres manières. Ils essaient toujours de garder ça le plus plaisant possible. Puis au-delà de la business et de la main-d'œuvre, c'est une expérience humaine qui est incroyable de travailler comme ça avec des gens qui viennent d'ailleurs, d'une autre culture. C'est une expérience qui est très, très, très enrichissante pour nous. Puis ça pique la curiosité de tout le monde, en fait. Je vous le dis, ces gens-là sont indispensables à notre société. C'est pas compliqué, puis c'est comme ça qu'il faut les traiter.
T'es un solide entrepreneur à travers la ferme aussi. Tu as beaucoup développé la business dans les dernières années. Bon, la cuisine smart, les paniers aussi. Comment tu vois le futur de l'agriculture au Québec? Est-ce que tu as l'impression qu'il va falloir se dépasser un peu dans nos façons de faire, dans les façons de pousser la business?
Il faut. En fait, c'est déjà commencé. Je te dirais que les agriculteurs, peut-être de ma génération, on est beaucoup plus éduqués. On est beaucoup plus scolarisé que des générations avant. On doit être formé. Je te dirais que pour réussir en agriculture ces années-ci, tu as plus besoin d'un bac en admin que d'un bac en agronomie. Là. On est rendu que... Les gars parlent trois langues. on a changé un peu de profil, si tu veux, d'entreprise, puis ça vient avec changement de profil d'entrepreneur, on n'a pas le choix.
C'est-tu compliqué? Mettons-moi demain matin, là, tu le sais, moi j'ai un petit chum à maison qui se pose des questions par rapport à peut-être un futur là-dedans des fois. Demain matin, tu veux te lancer en agriculture, c'est quelque chose qui est super compliqué, faut-il absolument qu'il y ait une terre familiale? Ou...
David, à quand remonte tes trois semaines de vacances consécutives dans le sud?
Ouais, c'est ça.
3-4 ans, là, je l'ai fait en janvier comme 2021. Ouais. Mal, ça, mais, après 10 ans de dur labeur, pas impossible de partir une ferme de zéro. C'est vraiment pas impossible, c'est faisable. Il y en a qui l'ont fait. J'ai un ami à Deschambault, Christian Hébert, le domaine Hébert, il a parti de zéro. Il a parti d'une terre en friche. Ça fait comme 10-15 ans qu'il fait ça, puis il a vraiment une belle entreprise. Mais, si vous avez rencontré le bonhomme, c'est un peu un freak. Là. Je veux dire, ça prend une personne un peu spéciale pour réussir une mission comme ça. Puis honnêtement, si j'avais à partir de zéro demain matin, avec tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait, tout ce que mon père a fait avant moi, puis rendu à 31 ans, ça ne le ferait pas.
Bon, ben David,
ça prend énormément de courage.
Ça t'aidera peut-être pas parce qu'on récupère ta femme, mais on va te laisser ta fille là, pour les prochaines années. Mais là, ta femme, on la garde avec nous autres pendant un certain temps, le plus longtemps possible.
Oui, puis elle est contente de revenir avec nous autres, là, sans vue de la gang, sans vue de son micro.
Ben, puis, la gang a hâte de le revoir, puis je regarde sur les réseaux sociaux, les auditeurs aussi ont hâte de réentendre Élodie.
Oui, je pense qu'elle va arriver... plein d'énergie, honnêtement. Au mois de maternité, on dirait qu'elle a passé à pas une cerne, elle est super en forme physiquement, mentalement. Là, vous allez, je pense, la revoir à son meilleur.
David, c'est toujours un plaisir.
Merci à vous autres.
Bonne journée, merci.
David Simard qui s'est rendu disponible pour nous. David Simard, c'est le propriétaire de la ferme Simard et Maraîcher. C'est aussi le conjoint d'Élodie qui
le
va être de retour.
Ouais.
Hello, arrive quand? Là? C'est la semaine prochaine?
Lundi? Lundi. Je suis assez énervé.
Ouais, oui, tout le monde est énervé. 10h53, on fait une courte pause. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. Vous êtes dans l'open mic.
Marceau, le soir.
418-971-1021. 418-971-1021. Si vous avez des choses à nous dire, il se passe quelque chose sur la route, c'est le temps de nous en faire part. Et merci d'ailleurs quand vous le faites. Ça nous aide beaucoup puis ça aide énormément de gens qui sont directement sur le terrain. Dans la grande région de Québec, c'est 21 degrés. Alternance de soleil-nuages avec 40% de probabilité d'averse cet après-midi. Même des risques d'orage, maximum de 26. Avec l'humidex, température ressentie aujourd'hui possible de 33 degrés. Ça va être assez chaud ce soir, cette nuit, nuageux, avec un minimum de 14 degrés. Demain, vendredi, du soleil, peut-être une alternance de soleil en fin de journée parce qu'on a un 30% de probabilité d'averse demain. Et pour ce qui est de samedi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 28 degrés. Ça a changé. En début de semaine, on nous annonçait de la pluie pour ce week-end. Puis pour l'instant, pendant la journée, samedi, dimanche, il n'y aurait pas de pluie.
Sachez que sur Henri IV Sud, à la hauteur de Jean Marchand, la voie de droite est bloquée pour l'accès à la capitale direction Est. C'est partiellement entravé aussi. C'est un accident de ce côté-là. Ça crée quelques ralentissements, justement. Si vous êtes sur Henri IV Sud, entre Notre-Dame et la capitale, c'est au ralenti aussi. Charest direction Est, c'est vraiment entre Henri IV et Robert Bourassa que ça se passe. Puis Robert Bourassa direction Sud, entre Charest et Laurier, là, il y a toujours quelques ralentissements. Évidemment, quoi que ce soit, 88-971-1021.
Merci beaucoup, madame. Hier, j'étais sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu un de mes amis, c'est Marc Nadeau, qui se donnait comme pas possible, surtout dans sa tenue pour présenter ses trucs. Marc Nadeau, c'est le propriétaire de Passe-Temps 3000. Je dis le propriétaire, mais on peut dire président, directeur général, extrêmement passionné de Passe-Temps 3000. Puis, je vous le dis, abonnez-vous à Passe-Temps 3000 sur Facebook. Il est très divertissant. Il est au bout du fil parce qu'il y a des cadeaux à donner. Salut, Marc.
Hey, bonjour, gang.
Qu'est-ce qui se passe? T'es rendu une star des internets. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas être un influenceur sur TikTok puis on va te parler, là, tu vas faire le tour de la planète?
Je pense pas que je devienne un influenceur, mais je trippe tellement dans ce que je fais que je m'extériorise.
Ça se sent.
Ouais. Là, Marc, il va falloir que tu arrêtes un peu là, pour ce qui est de tes casse-têtes. Je sais pas, t'en as combien de différents chez Passe-Temps 3000,
beaucoup,
mais
beaucoup.
Chez nous, je suis rendu avec une chambre remplie de casse-têtes à cause de toi. Ma blonde, c'est une passionnée des casse-têtes. Puis quand j'ai dit que j'avais été voir Marc chez Passe-Temps 3000, puis j'avais vu des casse-têtes, elle en achète un à peu près chaque semaine.
OK, passionné là.
Oui, passionné ouais. Comme... pas pire. Je me demande si je pourrais pas retourner ça à Marc à un moment donné, mais ça, ce sera dans une autre des discussions. T'as combien de casse-têtes différents chez Passe-Temps 3000?
Présentement, ben là, on est justement dans l'inventaire. D'après moi, on est à 8000 quelque chose différents.
Barnouche!
Mais savez-vous quoi? Ça fait la dernière semaine, les casse-têtes nouveaux arrivent. Tu sais, le temps des fêtes s'approche. Hein?
Ouais.
Avec les nouveaux casse-têtes, les nouveaux SKU arrivent tous. C'est vraiment intéressant, puis c'est le fun pour les passionnés de casse-têtes, parce que les casse-têtes, là, c'est vraiment un très, très beau hobby.
Ah oui, vraiment. En ce cas, t'as du
au-delà
touch...
de la pandémie qui a donné le goût à tous ceux-là qui n'avaient jamais fait, là.
Ouais.
Ils n'avaient des passionnés avant. Je vais dire de quoi, c'est... Les gens trippent vraiment, puis les images sont tellement rendues formidables.
Ouais.
Marc, on te jase ce matin parce que, oui, tu veux gâter les auditeurs, mais on a un auditoire, nous autres, à Boulevard, qui est très musique. On trippe sa musique. Il y a une bonne culture générale parmi les auditeurs qu'on a. Puis il y a un jeu qui est sorti il y a maintenant, quoi, facilement presque 2 ans, qui s'appelle Itster, la version anglophone. Mais là, il faut savoir que cette semaine, c'est la version franco qui est sortie. J'ai eu la chance de tester cette version-là, qui est vraiment mondo exceptionnel. Là. La nostalgie en haut pied carré. Pour le monde qui n'a aucune idée, c'est quoi Itster? Peux-tu juste nous résumer un peu le but du jeu?
Ben, en fait, Itster, c'est un jeu musical, premièrement, très facile à jouer, dont toute la famille peut jouer, que ce soit 7 ans à 99 ans, si on veut. Tout ce qu'on a à faire, on pige une carte, on scanne la carte, la chanson, une chanson, dans le cas d'ici, ça va être Franco qui va décoller, puis on a chacun une carte qu'on s'est passée juste avant, là, avec des dates, puis il faut se faire une ligne de vie. Donc, mettons qu'on sort, on scanne une carte, puis je te dis, Patrick Normand, qui joue « Quand on est en amour ».
Oui.
Bon, fait que là, ben, on a chacun une carte, une date différente. Mettons, c'est à tour de rôle. Le premier joueur, en 1995, en avant de lui. Donc, il faut qu'il dise si c'est avant ou après 1995.
C'est avant, c'est en 84.
En 1984, exactement, bravo.
Tu connais ça par cœur?
Là... Ben, je sais que c'est des années 80.
C'est 84. Fait qu'à ce moment-là, s'il a bien joué, il garde la carte. C'est le premier qui se fait une ligne de vie de 10 dates. Sauf qu'on s'entend que quand les tunes, les chansons partent, les souvenirs sortent. Là.
Ben oui.
Que
oui.
Ça soit ta mère, ta grand-mère, le petit qui l'a entendu à la radio, ou nous autres qu'on est déjà dedans, ben là, on a tous rencontré quelqu'un, il s'est tout passé un événement avec toutes ces chansons-là. Là.
Il y a de la nostalgie au pied carré.
Ben oui. Tu sais, en 1992, avec Jordi, là, dur d'être un bébé, on l'avait dans la tête, on tournait pas à la vitre, c'est que ça. Même aujourd'hui, on l'entend encore.
Oui.
Puis, il me semble qu'on passe la journée avec ça dans la tête.
Ah oui, puis écoute, cette toune-là, le dur d'être un bébé, ça passait d'un bar, là.
Absolument.
Puis les gens dansaient là-dessus. Mais je veux dire, tu réécoutes ça aujourd'hui, tu dis, attends un peu, il y a vraiment
c'est
des gens qui dansent. C'est
comme
oui. Mais, tu sais, on parle juste, on était dans le bar. Mais là, dans le bar, on était avec qui? Tu sais, tu te rappelles-tu? On va dire, on était avec Roger qui dansait sa caisse de son là-dessus. Fait que là, c'est tous des souvenirs qui fait que le jeu, au lieu de durer 20, 30, 40 minutes, il dure la veillée. Ben, coup fini, on recommence un autre game.
Oui,
c'est vraiment trippant, là.
Ce qui est le fun, c'est que tu peux mélanger les générations aussi. Tu sais, je veux dire, tu joues, mettons, avec grand-mère. Je veux dire, moi, je couvre les années 2000 solidement. Puis elle, je veux dire, elle peut s'occuper des années 60, là. Tu sais, il y a de quoi de trippant, là.
Oui, mais même les grands-parents sont surprenants. Eux autres, ils écoutent la radio, hein.
Mm-hmm.
Ils écoutent les nouvelles à 6 heures, mais entre-temps, ils ont la radio d'ouvert. Fait qu'ils entendent la chanson d'une journée, là.
Oui.
Fait qu'elles sont très bons. Fait que c'est l'arrivée du nouveau éditeur, 100% franco, qui est vraiment hot. Écoute, éditeur, c'est un phénomène mondial. J'ai été à Amsterdam en début juin. L'aéroport, il y avait deux comptoirs de éditeur. Mais pas deux comptoirs, 300 carrés, là. 1000 pieds.
Ouais. C'est vraiment la nostalgie, Marc. C'est la nostalgie qui fait en sorte que tout le monde vire fou avec ce jeu-là. Puis l'année passée, quand j'ai été te voir chez Passe-temps 3000, tu me présentais la boutique, mais tu me dis, ce jeu-là, ça pète de partout.
Oui. Puis ça va bien vieillir, tu sais, dans le sens que là, on est à 100% franco. Dans quelques semaines, peut-être un mois ou deux, on va en avoir un pour partir qui s'en vient. Oui. C'est malade, là, ce phénomène-là. Puis, l'affaire qu'il y a, c'est qu'on peut mixer. Hein.
C'est vrai.
Ça, on peut mixer les jeux. Là. Il n'y a pas de problème.
Tu peux mettre de l'anglo puis du franco.
Ben oui. Puis, tu sais, l'anglais, c'était pas l'américain. T'sais, c'était vraiment une formule canadienne qu'ils ont faite. C'est toutes des tunes qui avaient joué, qui jouent au Canada, anglais et français.
Honnêtement, là, pour avoir joué en masse à l'anglo puis avoir testé le franco, le franco est hot d'un party de famille.
Vraiment.
J'ai vraiment préféré le franco, personnellement. Ouais. C'est sûr que chez nous, on a beaucoup, beaucoup écouté de francophones, mais tu sais, ça tire partout, là, que ce soit Robert Charlebois, Margeau, je sais pas moi, les colocs, Corbeau, tu sais, on va vraiment chercher de tout, autant dans le plus récent, mettons, pour les plus jeunes qui voudraient jouer. Honnêtement, là, et moi, dans mon entourage, tout le monde l'a à la maison maintenant. Éditeur, là. C'est un incontournable des soirées de famille.
Moi, je pense que ça prend ça dans toutes les familles pour jouer. Si tu n'as jamais joué à rien, il faut que ça te prend au moins un jeu éditeur chez vous pour alimenter tes dimanches après-midi ou les samedis soirs ou les lundis soirs.
Ouais.
Ça prend ça, absolument.
Ça vaut combien, Marc, ce jeu-là?
29 $.
29 $.
30 $.
Pour mettre le plaisir en place.
Oui, c'est pas cher. Puis ceux-là qui n'aiment pas jouer, vont jouer.
C'est
les premiers à commencer à trouver les dates, à y aller plus fort.
Oui. Ah, mais t'es vraiment gentil de faire des cadeaux aux auditeurs de l'Open Mic de Boulevard.
On en donne 4.
T'en donnes 4. Faut se présenter chez Passe-temps 3000 pour aller chercher le cadeau. Puis, hey, écoute, on va jouer à Edster, toi, moi, Audrey, avec les auditeurs. Choisis-moi une toune franco. Donne-moi pas la date exacte. Là. Faut que tu me dises si tu es avant 2000 ou après 2000 ou si tu es avant 2010 ou après 2010. Mais trouve-moi une toune qui t'a marqué, là, peut-être dans ton âge. On s'en va dans les années 40, je pense. 40-50, à peu près.
Wow. Lola.
Lola. OK.
Alan Théo qui chantait ça.
C'est Alan Théo. Oh boy. OK. Alan Théo. Ah, j'ai ça ici. OK, parfait. Donc, ce qu'on dit, Marc, c'est quoi la question qu'on pose?
Avant 1984 ou après 1984?
Avant,
c'est facile,
ou après 1984? Lola. Parfait. OK. Donc, parmi tous ceux qui vont nous écrire par texto au 88-971-1021, ceux qui auront eu la bonne réponse, Audrey va choisir les 4 gagnants. Puis vous allez devoir aller chez Passe-temps 3000 pour réclamer votre prix. Puis le prix, c'est le merveilleux jeu qui vient d'arriver. C'est le jeu francophone Edster. Marc, t'es tellement généreux. On t'aime beaucoup.
Hey, merci à vous encore une fois.
Bonne journée.
Passe-temps 3000, on va te voir sur Internet aussi pour voir tout ce que vous avez, tout le stock. Sinon, c'est encore mieux. Moi, j'ai été voir sur place. Là. Oui, oui.
Oui.
Puis là.
Suivez-moi sur Facebook quand j'ai mes déguisements.
Ouais, ton linge, c'est qui te fournit ça? Hein?
C'est on trouve toutes sortes d'affaires. Il n'y a rien de pas bon. Salut, merci encore.
Bye,
bonne journée.
Bye. On l'écoute-tu, Lola?
On l'écoute, vas-y.
J'ai juste hâte de voir la tête de John Padula en disant, voyons, qu'est-ce qu'ils ont mis?
Il y a déjà beaucoup de réponses qui rentrent. Oui.
On va la faire entendre, du moins. Allons-y.
Oublie tout, ne rêve pas, mais regarde autour de toi, les gens ne vivent pas comme ça. Lola. Oublie tout, ne rêve pas.
T'as connu par cœur, toi?
Mais regarde autour de toi, vivent pas comme ça. L'eau, là, on peut pas vraiment parler de bon sens.
Mais je vous dis, là, pour vrai, puis il a raison. Moi, mon beau-père est pas un homme qui joue aux jeux de société, il est ici pour mourir. Mais c'est sûr que si tu mets de la musique dans la maison, qui ne réagit pas? Il y a personne d'indifférent à la musique. Là. Mais oui, mais c'est bien sûr. Oh non, on a su rire. Puis Hitster, on vous en avait beaucoup parlé, surtout l'année passée, parce que, je sais pas si tu savais, Yann, mais Véro Bergeron, sur la version anglophone...
a travaillé là-dessus.
À son nom, ça boîte. À travailler sur les choix de chansons, puis les... Fait que, non, c'est un jeu qu'on aime bien ici, puis honnêtement, ça vous le prend. Moi, j'ai tous les gens qui ont le conseil, il n'y a que des bons commentaires qui reviennent. On fait tirer 4 jeux avec Passe-temps 3000. Je vais en faire 2 sur Twitch, 2 sur le texto, tiens. Fait que c'est parti, 971-1021, twitch.tv, BLVD.
Cette chanson-là a été diffusée sur les ondes de radio avant 1984 ou après, pas compliqué, 418-971-1021. C'est une toune, c'est un verre d'oreille. Hein?
Ah, c'était carré, ça reste dans la tête.
Les gars, les toughs vont arriver à la job tantôt. N'oublie tout! Ben, c'était un beau cadeau de la belle gang de Passe-temps 3000. Merci beaucoup à Marc Nadeau. Jean Leloup, Paradise City sur les ondes de boulevard.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
À Paradise City.
Peut-être que cette tune-là se retrouve dans le jeu, qui sait?
Ouais, bien sûrement. Mais je veux dire, je pense que... Ouais, ça serait trop facile, hein, en 1990.
Ouais, non, c'est ça. Ça te donne un
ça
bon
indice. Serait trop facile.
Ça serait bon, par exemple. Ça serait comme le cheval blanc de Napoléon.
Là. Oh, mec! On met Paradise City. Ouais, il y a peut-être plus de chance. Jean Leloup, vas-tu sortir quelque chose de nouveau à un moment donné, lui?
Ouh, c'est une excellente question. Il est dans les parages, oui, c'est ça.
Il se promène à Québec, il a ses petits spots. On le voit passer. Il marche souvent à pied.
Oui, absolument.
On sait que c'est lui parce qu'on le connaît, là, mais ça serait le fun qu'il refasse quelque chose d'autre, qu'on l'entende des fois.
Mais je pense qu'il était pas super...
Tu sais, une entrevue avec Denis Gravel.
Hey, oh mon Dieu, mais je pense que ce serait un rêve pour Denis. Ou il serait trop gêné. Denis, les gens qui admirent, c'est dur de se faire prendre en entrevue.
Ouais.
Il y a des regrets. Après, je sais qu'il regrette encore Rock et Belles Oreilles.
Ah, ouais.
C'est, ben oui, Pascal qui avait fait l'entrevue avec eux dans leur CV l'an passé, puis je me souviens que ben, l'an passé, ça fait quelques mois à peine, là, c'était pour le Cirque du Soleil du côté de Trois-Rivières. Je suis allée voir le show d'ailleurs, écœurant. Puis Denis regrettait de pas avoir lancé, mettons, à la pêche. Là. J'ai comme l'impression que quand il admire les gens, il devient comme gêné. T'as jamais entendu ce qui s'est passé avec Sarah Dufour?
Non.
Il l'a évité longtemps parce qu'il aimait beaucoup Sarah Dufour, jusqu'à ce qu'on y force un peu dans la gorge. Maintenant, c'est une amie du show, mais... Non, tu sais comment Denis longe les murs.
C'est un grand timide.
Un très grand timide.
Ça veut dire que s'il jase régulièrement avec nous sans gêne, ça veut dire qu'il...
Il nous admire pas pantoute.
Il nous
c'est
aime pas
pantoute,
c'est
ça. C'est ça.
Hey, toi, comment tu fais ton épicerie, toi? Tu magasines-tu les rabais? Moi, j'ai été longtemps à faire l'épicerie, tout le temps à la même place. Là. Moi, je suis fidèle comme un Saint-Bernard dans une tempête. Là.
Ouais.
Je me pose pas de questions, puis je l'ai toujours à la même place. Là, maintenant, avec la montée des prix, je fais peut-être un peu plus attention. J'ai découvert certains trucs. Je t'en parlais tantôt, Audrey. Je me suis aperçu qu'à une épicerie, entre autres, quand le boucher est sur le point de finir son chiffre, il regarde ce qui doit passer rapidement. Puis il met les spéciaux. Et moi, je passe le soir, je ramasse la viande, je fous ça dans le congélateur. Merci, bonsoir. J'ai fait des dizaines et des dizaines de dollars d'économies. Ça, moi, c'est mon petit truc à moi, mais il y en a d'autres qui font 4-5 épiceries. Faites-vous ça?
Ah, mais il y en a que c'est du couponnage où ils vont regarder justement sur les différentes applications les rabais. J'admire ces gens-là, pour être bien honnête. Moi, je suis lâche. Moi, c'est l'épicerie de quartier. C'est pas compliqué. Mais oui, honnêtement, moi, que je vienne à Québec après la job, là, moi, il y a une épicerie puis c'est le métro à côté de la maison à Saint-Marc-des-Carrières. J'ai pas ben de choix, là. Fait que moi, c'est vraiment là que je vais. Mais je t'avoue, par exemple, que moi, je vis sur les applications d'économie.
J'ai une question, hein? Tu travailles à Québec, pourquoi tu vas pas juste à côté ici?
Ah, mais je suis juste large. Quand je finis à 6 heures, j'ai vraiment hâte d'aller chez nous. Okay. Là, j'ai une heure de route à faire. C'est la seule raison. Mais le pire, c'est que souvent, quand tu vas manquer des produits que je cherche précisément, je viens à Québec assurément.
Il y a quelqu'un qui m'envoie beurre étant spéciaux cette semaine chez Maxi, oui, à moins de 5 $.
Oui, mais ça fait 2 semaines de suite qu'il est en rabais.
Ça se congèle-tu du beurre?
Oui.
La réponse, c'est oui.
Il n'y a pas grand-chose qui se congèle pas.
C'est juste que
tu as
de l'air fucké en sacrament d'en acheter 20 de la chute.
Oui, mais en même temps, un moment donné, tu n'as plus le choix. Je pense qu'aujourd'hui, ça se comprend. Puis on en voit toujours des chiffres, puis des études, puis des affaires qui sortent sur le fait qu'on rush de plus en plus avec l'épicerie. T'sais, là, dernièrement, c'était Metro qui a augmenté ses ventes, ce qui serait censé être positif, mais les revenus ont baissé. Parce que justement, les gens sont de plus en plus conscients, de plus en plus prudents, ce qui est une bonne affaire. Connais-tu l'application Food Hero?
Oui, j'ai entendu parler de ça, oui.
Ça, là, puis ça fonctionne vraiment. Il y en a pour Maxi, il y en a pour, bon, toutes sortes de...
Ça se fait-tu Super C?
Non, Food Hero, c'est Metro et IGA.
OK, puis qu'est-ce qu'il y a chez Super C? Il me semble qu'il y a une application qui est comme ça. Ça se peut, parce que quand je sors du Super C à Val-Bélair, c'est-tu le Super C ou Maxi?
Mais tu vois, Maxi, c'est Flash Food. Maxi Provigo, c'est Flash Food. Fait c'est peut-être de ça que tu parles.
Quand je sors du Maxi à Val-Bélair, quand je vais passer les caisses, à gauche, il y a des produits, puis il y a justement les fameux produits des applications. C'est beaucoup moins cher.
Mais c'est full bien fait. Il y a Flip qui existe aussi, qui est carrément... Il y a une application, mais le site web où justement tu es capable de regarder les différents rabais. Toutes les circulaires sont comme en même place de façon numérique, dans le fond. Mais moi, je suis pas bonne là-dedans, puis j'aille ça pour mourir, puis je suis lâche, puis j'ai pas le temps, pour être vraiment franche. Fait que moi, ce que j'aime avec Food Hero, c'est que c'est des économies jusqu'à 70 % de rabais. Moi, je l'utilise juste pour la viande. Tout ce qui est produits laitiers, j'aime mieux acheter ça complètement frais. C'est très personnel. Là.
On me demande si t'es payé par Food Hero.
Pas en tout. Je radote. Non, mais cet auditeur-là a raison. Je radote, mais moi, c'est ce que j'utilise, puis je sais que ça aide du monde, fait que je le répète. Mais cette application-là, si vous l'avez jamais utilisée, c'est d'une simplicité. Ils prennent les métros et gel les plus près de chez toi. Puis en gros, les bouchers, par exemple. Les bouchers, à partir d'un certain point, ils n'ont pas le choix de s'en débarrasser de la viande, même si ce n'est pas nécessairement mauvaise. Mais Food Hero, le principe est simple, c'est qu'après deux jours, ces tablettes, eux autres se doivent de le retirer, fait qu'ils le congèlent direct. Ce que toi, tu fais, Yann, là, quand tu prends ta viande, tu la mets au congélateur, là, ben, eux autres le font pour toi, puis elle devient à peu près à 50 % de rabais. C'est comme des 150$ que je suis capable de sauver. Là. Puis tu stockes ça dans ton congélo, puis je veux dire, t'en as pour un bout, puis il y a toutes sortes d'affaires, là, que ce soit des bavettes, des brochettes, des tourne-dos, des limite, tout ce qui se vend pas, eux autres le congèlent, puis tu peux le récupérer.
Ben oui.
Fait que tu fais ta commande sur ton application, puis la prochaine fois que tu vas faire ton épicerie, là, tu prends tes affaires normales, puis à la caisse, tu dis « Hey, j'ai une commande Food Hero qui est déjà payée à mon nom. Okay. » Ils te sortent le sac en papier, tu pars avec ça.
Question technique là, pour les gens qui travaillent dans les épiceries ou dans les boucheries au 418-971-1021, quand la viande est sur le point de passer comme à un autre appel, là, tu sais, demain, tu le sais, ou après-demain, il va falloir que tu le jettes. Transformez-vous ça. T'sais, parce que dans la restauration, l'idée, c'est d'avoir zéro perte.
De changer la date, tu
donc,
veux dire?
Non, je ne peux pas changer la date, la transformer. Fait que, exemple, dans un restaurant, quand tu as des légumes puis des fruits qui sont plus nécessairement beaux là, à l'œil, ben ils peuvent les transformer pour faire des soupes ou faire des desserts et tout ça. Est-ce qu'à la boucherie, ils font la même chose? Ils font-tu, mettons, ils décident de faire cuire la viande puis après ça, ils transforment ça en sauce à spag, mettons?
Ou les repas prêts à manger que tu retrouves souvent dans les comptoirs. Pis c'est pas si une bonne question, ça.
Moi, mais je le ferais, être propriétaire d'une épicerie. Là.
100%, mais tu fais beaucoup d'économies au final. Si tu
t'organises pour avoir zéro perte. Je regardais des gens qui vivent dans la rue à Montréal qui font le tour des épiceries, qui se ramassent des affaires. Des fois, ils se ramassent à une véritable épicerie, mais juste avec ce qu'ils trouvent dans les poubelles. Me dis, on pourrait pas...
C'est dumpster diving, c'est comme ça que ça s'appelle, me semble.
Moi, je n'irais pas jusque-là. Là.
Dumpster diving, mais non, mais ça, c'est parce que ça cause des problèmes aussi. Là. On a retrouvé des gens dans les containers. Là.
Ouais, c'est ça.
Pris, là.
Mais au-delà de ça, je ne mangerais pas. Peut-être que c'est parce que j'en ai trop eu dans ma vie, là. Mais je ne mangerais pas... dans un corps à vidange.
Je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est plate à dire, par exemple, mais des fois, il y a des belles affaires que tu vas retrouver, tu sais, des carottes, des pommes, des céleri.
J'essaie de ne pas juger, là, mais tu sais, eux autres, ils lavent ça, puis tout est correct, mais dans ma tête...
Toi, ça marche pas.
Ça a été dans la poubelle, ça marche pas.
Mais j'ai pas le choix de te dire que je suis à la même place que toi, pour vrai.
Ça.
Ouais.
Ça pue, tu vas pas là.
Puis pire que ça, on a le préjugé facile, mais moi, si ma pomme est un peu poquée à l'épicerie, je la prends pas non plus, là.
Ça, je le sais que c'est un autre sujet, là, mais j'ai vu...
Monde qui taponne les fruits et légumes.
Quelqu'un, OK? C'était comme des paniers. Mettons, je donnerai pas trop d'indices, mais paniers de fruits.
Oui.
La personne faisait le tour de tous les fruits qui étaient dans le panier. Ceux qui étaient pas beaux, elle les mettait de côté. Après, un autre panier, puis elle mettait comme les fruits qui étaient beaux dans son panier. Puis elle mettait tous les mauvais fruits qu'elle a trouvés visuellement. Là. Elle les a toutes mis dans le même panier.
Ça, c'est comme le monde qui prend les sacs de raisins. puis qui enlèvent des raisins de leur sac pour les mettre dans un autre sac de raisins parce qu'ils sont plus beaux ou moins beaux, ou il y en a trop, peu importe. Dans ma tête, laisse ce qui est intact sur le comptoir, prends ce qui te plaît, mais mets pas tes mains sales là-dedans, mettons. Ça m'écoeure. J'ai vraiment de la misère avec ça.
Ouais, tu sais, c'est à ta ponne. Tu sais, je comprends que la madame, elle sait, elle, qu'elle s'est lavé les mains, mais moi, je le sais pas, tu t'es lavé les mains. Peux-tu lâcher mes fruits?
Je suis en même place
mais
que toi.
Est-ce que tu ferais ça?
Non, mais non.
T'as, mettons, 20 paniers, là. Mettons, on va dire des fraises, OK?
Oui.
Puis là, tu regardes, il y a des fraises qui sont moins belles, tes tasses, puis tu remplaces là par les belles fraises qui sont dans les autres paniers.
Oui, mais le pire, non, je ferais pas ça pour répondre à ta question, bien honnêtement. Par contre, je prends le plus beau panier de fraises. Je vais le watcher, là. Je vais le virer de tout bord de côté pour être sûr que ce soit le plus beau, là. Mais j'arrive à comprendre quand même au prix qu'on les paye. Dans le sens que ce genre de fruits-là, c'est des pourritures, là. T'as-tu déjà acheté un casseau de framboise qu'il y en a une qui est pleine de petites mousses, là, dans le fond? Là, ça prend 24 heures de plus de framboise.
Fait que toi, tu prends la framboise pourrite, tu la mets dans un
non,
autre...
Non, non, non. Okay. Je le fais pas, mais je comprends. Je serais trop gênée de le faire.
Je ne le fais pas.
Mais non, je serais bien trop gênée de faire ça. Mais
connais-tu
je...
quelqu'un dans ton entourage qui le fait?
Pas du tout.
Quelqu'un qui partage la même,
non,
même
non,
appartement,
non,
la même maison?
Juré qui fait pas ça. Juré.
Collègue de travail?
Non plus, je pense pas. Je ne veux pas mettre personne sur le bûcher parce qu'on juge ces gens-là.
Ouais.
Soyez pas comme ces gens-là. Il y a dans les applications qui reviennent « Too good to go ». Ça, j'en avais entendu pas mal parler. Peut-être que ça peut être un incontournable pour vous. Dans plusieurs commerces, ce qu'on fait, c'est que c'est comme des paniers surprise. Ils font ça aussi des épiceries. Tu sais, des fois, là, Yann, on met un genre de cabaret avec des tablettes, là, puis c'est comme « Voici tout ce qui est en rabais, parce que c'est sur le bord de passer date. »
Ouais.
C'est comme à 80 % de rabais. Là. Bien, c'est le même principe, mais avec du frais aussi. Fait que c'est comme surprise cette journée-là. Moi, je sais pas, c'est le gâteau aux bananes qui est en rabais parce qu'on va le perdre. Fait que il y a Too Good To Go avec lequel tu peux fonctionner. Tu vas voir qu'est-ce qu'il y a disponible où, puis tu peux le réserver. Pareil que ça fonctionne super bien.
Tu congèles-tu ton pain?
Oui, ben je faisais pas ça, mais le petit chum le fait.
Ouais.
Je jugeais un peu ça dans ma tête, ça allait pas être bon, mais ça change rien.
Ça change absolument.
Ça vaut à peine aussi parce que je le perds sinon.
Mais il y en a qui sont capables de faire la différence, là, ceux qui sont, tu sais, quand ils boivent leur petit café avec le petit doigt en l'air.
Oui.
Mais. Moi, je le fais, là, avec mes gars, là. Tu sais, un pain qui était congelé versus un pain qui s'en rend pas compte.
Toasté, ça change absolument rien, là.
J'en ai un qui est capable de me dire quand est-ce que la bouffe des vaches change quand il boit son lait, là.
Ben oui.
Ouais, ouais. Il y en a qui sont comme ça, là.
Ah non, mais ça, c'est trop intense pour moi,
c'est,
là.
C'est des hypersensibles, là, qu'on appelle.
Non.
Fait qu'ils boivent leur verre de lait, puis ils savent que la façon dont on a nourri les vaches, c'est pas la même qu'il y a deux semaines.
Non, ça, c'est étrange. Ces gens-là, on se tient loin de ces gens. Moi, par exemple, la seule affaire sur laquelle je suis picky.
Mon gars, je pense que c'est le Philippe Lapéry du lait.
Okay, ton gars, fait partie de ces gens-là. Moi, la seule affaire, par exemple, c'est les dates de péremption. Je vais avoir de la misère à partir d'un certain moment. Là. Mon chum n'est pas regardant là-dessus. Il va tasser la petite mousse des fois puis il va manger ce qu'il y a en dessous. Là. Moi, ça m'écœure au plus haut point. Si c'est plus bon ou j'ai un doute que c'est plus bon, je ne mettrai jamais ça dans ma bouche.
Mm.
Aucune chance. Moi, ce qui est frais. Il y a juste ce qui est frais qui va dans ma bouche. Le reste, je laisse aux autres. C'est mon côté capricieux.
Oui. Même si CV n'est pas là, je ferai pas de blague. Audrey, je te souhaite de passer une maudite belle journée. On t'écoute dans le retour avec Denis et Véro.
Bon Marceau le midi.
Pascal CV est dans la porte. Fait qu'on va partir à Marceau le midi dans les prochaines minutes. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se rejase tantôt. Salut!
Oui. Salut, là! Faites du bruit, car les